This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
The Hargan women seemed to have it all.
We were blessed. My mom was amazing.
But detectives would soon discover...
Inside the house, there were the bodies of two women.
A story of betrayal you would struggle to believe if it wasn't true.
I am just praying to God. This is a sick joke.
From 48 Hours, this is Blood is Thicker, The Hargan Family Killings. Listen to Blood is Thicker, The Hargan Family Killings, starting May 8th, wherever you get your podcasts.
...1996. Montana. Un soleil ardent inonde la forêt. Dans cette vallée sauvage où règne une végétation dense et parfumée, trois hommes cheminent d'un pas léger. L'un d'eux est garde forestier. Les deux autres, ses adjoints, répondent à ses plaisanteries par des éclats de rire qui résonnent d'un bout à l'autre de la forêt. Le sentier qu'ils empruntent serpente entre les arbres et arrive bientôt à proximité d'une cabane. Une minuscule bâtisse, à peine visible entre la frondaison des pins. Les trois hommes s'en approchent. Avec nonchalance, le garde forestier frappe trois coups contre la porte d'entrée.
Dans la cabane, à demi assoupi sur son lit d'appoint, Théodore Kaczynski en trouve une paupière. Il pousse un grognement et jette un coup d'œil à sa montre. 15h. Merde. Qui vient l'emmerder cette fois-ci? Théodore déteste qu'on le réveille en pleine sieste. Réprimant un bâillement, il se lève et se dirige vers la porte. En l'ouvrant, il découvre face à lui trois hommes au visage souriant.
Le garde forestier se présente à Théodore. Lui et ses adjoints sont ici pour une visite de routine. On les a mandatés afin qu'ils mesurent le terrain qui borde la cabane. Si Théodore veut bien leur indiquer jusqu'où s'étend sa propriété, ils auront fini et seront partis en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Théodore pousse un soupir d'exaspération. Il n'aime pas être importuné. Encore moins pour des choses aussi futiles. Du bout des lèvres, il marmonne qu'il va chercher une veste dans sa cabane et se détourne légèrement.
C'est l'occasion. À peine s'est-il retourné que les trois hommes fondent sur lui. Théodore pousse un cri d'effroi. Il est plaqué au sol avec une telle violence qu'il en a le souffle coupé. L'un des hommes tire un pistolet de sa ceinture et hurle d'une voix puissante
« FBI, plus un geste !»
Théodore est immobilisé. Il tente de se débattre en vain. Dans sa tête, ses pensées s'agitent et s'entremêlent. C'est impossible. Comment ces imbéciles ont-ils fait pour le retrouver? Mais aussitôt, une vérité s'impose à son esprit. Cela ne change rien. Il a déjà gagné. Peu importe ce qui va suivre, peu importe qu'on l'emprisonne ou qu'on le condamne à la chaise électrique. De toute façon, ces idiots arrivent trop tard. Le monde ne sera plus jamais le même.
Nous sommes le 3 avril 1996. Après 20 ans d'une chasse à l'homme ininterrompue, l'enquête la plus longue de l'histoire des États-Unis vient à l'instant de s'achever. Théodore Kaczynski, l'homme qui voulait sauver l'humanité, ferme les yeux et cesse de se débattre. Cette fois, c'est fini. Yuna Bomber vient d'être capturée. un génie. Aucun mot ne saurait mieux décrire le jeune Theodor Kaczynski. Ce fils d'immigrants polonais, né dans un quartier populaire de Chicago, connaît dès l'enfance un parcours scolaire hors norme. À l'âge de 10 ans, un test réalisé dans son école établit son QI à 167. Théodore est en avance sur tout. Ses prédispositions naturelles laissent ses enseignants et ses parents sans voix, au point qu'on l'invite à sauter plusieurs classes dès l'école élémentaire.
Mais Théodore est un enfant solitaire et introverti. Comment pourrait-il se faire des amis, lui qui s'ennuie du bavardage puéril de ses camarades ? Les enfants lui paraissent stupides. Les adultes aussi l'ennuient profondément. Il est effaré par la lenteur avec laquelle pensent les gens, et plus encore par l'inanité des conventions sociales auxquelles son entourage se soumet avec ignorance et docilité.
À seulement 16 ans, Theodor Kaczynski intègre Harvard. Il obtient son diplôme en mathématiques, impressionnant ses enseignants par sa formidable capacité d'apprentissage et sa personnalité rebelle. Plus tard, l'un de ses professeurs dira de lui « Il ne suffit pas de dire que Theodor était intelligent, c'était une personne inhabituelle. »
Le jeune Theodor a soif d'apprendre. Il souhaite décortiquer le monde pour mieux le comprendre. Après Harvard, il s'inscrit à l'Université du Michigan et passe son doctorat. À cette occasion, il résout un théorème complexe qu'aucun mathématicien n'était parvenu à déchiffrer avant lui. Sa thèse remporte un prix. Ses travaux sont publiés. Âgé d'à peine 20 ans, il est déjà considéré comme une étoile montante des mathématiques.
Très vite, la prestigieuse université de Berkeley le contacte. On lui offre un poste de professeur. Il accepte. Jusqu'ici, sa vie suit un parcours sans accroc, une ascension fulgurante, qui laisse présager un avenir illustre et glorieux pour le jeune homme.
Mais il ne s'agit que d'apparence. En réalité, Théodore ne veut pas de cette vie. Cet avenir banal ne l'intéresse pas. Il le dégoûte. Les codes sociaux à respecter, les petites mesquineries, les jeux d'ego entre professeurs, toutes ces règles le révulsent. La société entière est malade. Il le sent au plus profond de lui. Le monde moderne ne tourne pas rond. Et maintenant, on le somme de se conformer à cette immense mascarade. On attend de lui qu'il fasse semblant de s'épanouir parmi les fous et les idiots. Hors de question. Il vaut beaucoup mieux que ça.
En 1969, Theodor Kaczynski démissionne brusquement. Parmi ses collègues, la surprise est totale. Pourquoi le jeune homme renonce-t-il à un poste aussi prestigieux ? Theodor quitte Berkeley et retourne vivre chez ses parents. Il n'emporte rien avec lui. En guise d'explication, il explique simplement à ses confrères qu'il a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il veut réellement devenir.
2 ans, pas plus. C'est la durée qu'il faut à Théodore pour être dégoûté par ses parents. Son père et sa mère sont des idiots comme les autres. Aussi soumis, esclaves, aveugles et bornés. Théodore n'en peut plus. Est-il le seul à se rendre compte de l'absurdité du monde moderne ? Il quitte la maison familiale et puise dans ses économies pour s'acheter un bout de terrain au milieu de la forêt, dans le Montana. Il souhaite vivre loin des hommes. Et le lopin de terre qu'il s'est trouvé constituera l'endroit idéal. Une vallée isolée près de la petite ville de Lincoln. Là, Théodore construit sa cabane. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Aucune de ces choses ridicules issues du confort moderne et qui ne servent qu'à emprisonner l'individu derrière des barreaux invisibles. Théodore se sent enfin libre. Il n'a besoin que d'une chose, lire encore et toujours. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh. How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
À la bibliothèque de Lincoln, il emprunte d'innombrables ouvrages. Son rayon de prédilection, les sciences humaines. Le jeune homme se fascine pour la sociologie, l'histoire, l'économie. Il veut comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la civilisation actuelle. Il consulte les livres de Jacques Ellul, ce penseur français convaincu du besoin de lutter contre la croissance sans fin, le conformisme, le progrès technologique. Théodore découvre aussi un certain Kirkpatrick Sale, théoricien américain opposé à la société industrielle, pour qui les technologies modernes sont sur le point d'asservir l'humanité.
Peu à peu, la pensée de Théodore se précise. Son dégoût de la société se transforme en haine vis-à-vis de tout ce que représente la civilisation du XXe siècle. Et bientôt, l'évidence s'impose à lui. Cela ne fait aucun doute. Le progrès technologique va conduire l'humanité au désastre. Une seule chose peut empêcher cette catastrophe. Il faut provoquer l'effondrement total et absolu du système. Mais comment faire? Comment détruire le monde pour mieux le sauver? Théodore y réfléchit durant des mois, tournant le problème dans tous les sens, persuadé qu'il existe forcément un moyen et qu'il faut agir au plus vite s'il veut protéger l'espèce humaine. Jusqu'à ce que la solution lui apparaisse un beau jour. Théodore est frappé d'une révélation. Et aussitôt, les détails d'un plan complexe et méticuleux se dessinent dans son esprit.
May 25, 1978. Salle des courriers de l'université Northwestern, dans l'Illinois. Buckley Christ n'y comprend rien. Ce professeur en ingénierie vient de recevoir un colis. Une boîte de taille moyenne, affranchie de plusieurs timbres, sur laquelle figure son propre nom en tant qu'expéditeur. Pourtant, il n'a jamais envoyé un tel courrier. Qui le lui a fait parvenir et dans quel but? Confus, il explique la situation à Terry Marker, l'employé de sécurité dans la salle des courriers. Sur le ton de la blague, Terry laisse entendre qu'il s'agit peut-être d'une bombe. Il retire le papier Kraft qui enveloppe la boîte. Une seconde plus tard, le colis explose dans une déflagration qui embrase l'air et ébranle les murs de la pièce.
Le lendemain, au petit matin, Théodore Kaczynski se procure le journal avec une impatience et une curiosité dévorantes. Il trouve l'article, page 3, colonne de gauche. Une bombe explose à l'université Northwestern. Aucune victime grave. Un agent de sécurité légèrement blessé. Théodore laisse échapper un juron. Aucune victime grave? Comment est-ce possible? Il était pourtant sûr d'avoir réglé la bombe à la bonne puissance. Le colis piégé devait tuer ce professeur et non blesser un simple agent de sécurité. Théodore se force à retrouver son calme. Il ne doit pas s'énerver. Son plan nécessite un grand sang-froid. Pour pour sauver l'humanité, il faut créer un climat de terreur d'où pourra naître la révolution. Et cela signifie s'en prendre d'abord à ceux qui font progresser la technologie. Voilà les ennemis. Ingénieurs, professeurs, scientifiques, développeurs informatiques, ce sont des traîtres à l'humanité. Théodore ne prendra aucun plaisir à les tuer. Mais il n'a pas le choix. La violence est une forme d'autodéfense. Et la peur, le seul moyen de réveiller les foules. La deuxième bombe sera la bonne. De retour dans sa cabane, Théodore s'emploie à perfectionner sa technique. Apprendre à fabriquer des explosifs n'a rien de compliqué pour qui sait faire preuve de patience. Quelques ouvrages collectés ici et là, un peu de logique, du bon sens et de la volonté. Rien d'insurmontable. Il prend même un certain plaisir à concevoir ce second colis piégé. Comme un horloger, il trouve une élégance grisante dans le fait d'agencer les fils électriques, les piles, l'explosif, les chevilles en bois.
May 1979, deuxième bombe. Cette fois, c'est un étudiant de l'université qui a ouvert le colis. Joliment emballé, la petite boîte était posée sur un bureau vide dans la salle des étudiants. En la voyant, John Harris a cru à un paquet cadeau. Il a défait l'emballage. L'explosion a été perçue à travers tout le campus universitaire. Le jeune étudiant est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. On contacte la police locale. Des officiers se rendent sur place et enquêtent pendant plusieurs jours, mais ils ne trouvent rien. Aucun indice parmi les décombres, aucune piste. On songe rapidement à une plaisanterie douteuse, commise par des étudiants inconscients du danger. Des jeunes qui n'ont pas voulu tuer, mais simplement faire une farce. Et puisque l'attaque n'a fait aucun mort, le dossier est classé. On détruit les preuves, y compris les restes de la bombe. Les policiers prennent quelques photos, sait-on jamais, et l'enquête s'arrête là.
Nouvel échec. Théodore en tremble de frustration. Lui, le génie, lui, l'esprit supérieur, incapable de réussir son plan ? C'est inadmissible. Se serait-il encore trompé dans la conception de la bombe ? Qu'importe, le temps presse et l'abandon n'est pas une option. Sa mission est trop grande pour qu'un simple accroc anéantisse ses plans. Le monde moderne est en train de détruire la nature et d'anéantir la liberté des individus, en transformant l'homme en une machine froide et servile. Théodore n'a pas le choix. Il faut frapper fort, marquer les esprits. Mais d'abord, il doit se calmer. Afin d'étancher sa rage, Théodore se consacre à la rédaction d'un pamphlet. Écrire l'apaise. C'est ainsi qu'il rédige son tout premier texte militant. Un essai virulent de 23 pages qu'il place dans une enveloppe et fait parvenir à son frère David Kaczynski. À cette époque, ce frère plus jeune est la dernière personne avec laquelle Théodore maintient un semblant de lien social.
En recevant le courrier, David est pris d'un vertige d'angoisse. Il parcourt des yeux les 23 pages et ne peut réprimer un frisson lancinant. Le texte suinte la rage. À chaque ligne, son frère Théodore vitupère contre ceux qu'il considère comme des criminels. Les gauchistes qui défendent le système, les publicitaires et leur infâme propagande, les fabricants d'ordinateurs, les chercheurs en neurosciences qui veulent manipuler les masses, la liste est longue. Et la colère de son auteur, intarissable. À partir de ce jour, horrifié par la lecture du pamphlet, David coupe les ponts avec son frère. Il prend la décision de ne plus jamais le contacter. Quant au courrier, il le range au fond d'un coffre et se promet de l'y laisser à tout jamais.
Affairé à la coupe du bois derrière sa cabane, Théodore est d'humeur sombre. Il n'a reçu aucune réponse de son frère. Ce salaud n'a même pas daigné lui écrire. Et cela confirme ce que Théodore pensait. Tout le monde est aveugle, à part lui. Lui seul est capable de détruire la société. D'ailleurs, il songe qu'il est temps de revoir ses ambitions à la hausse. Si les petites bombes ont échoué, il faut agir à grande échelle, semer une terreur que les gens n'oublieront pas. Mais comment ? Quelle pourrait être sa prochaine cible ? Tout à coup, Théodore se fige. Il sait. Il se précipite aussitôt dans sa cabane. D'un geste fébrile, Théodore ouvre sa boîte à outils, dépose les ustensiles sur son bureau et entreprend la confection d'une nouvelle bombe, beaucoup plus sophistiquée et plus puissante que les précédentes. Le monde doit connaître la terreur. La terreur doit conduire à l'effondrement. L'effondrement doit sauver la liberté. Dans quelques mois, Théodore Kaczynski placera sa bombe dans la soute d'un avion de ligne transportant des dizaines de passagers.